France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence avec ce rebondissement inattendu dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien PDG de Renault-Nissan ne se trouve plus au Japon mais au Liban, à Beyrouth, où il a atterri hier selon les médias locaux. Il y a à peine une heure, Carlos Ghosn a d'ailleurs confirmé sa fuite. Dans un communiqué, il dénonce un système judiciaire japonais partial, une injustice, disait son entourage hier soir. On n'en sait pas plus pour le moment sur les circonstances de ce départ. Carlos Ghosn était assigné à résidence au Japon depuis le 25 avril dernier. Dans l'attente de son procès, il sera jugé notamment pour malversation financière. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, a été condamné à 20 ans de prison hier. Il est aussi privé de ses droits civiques pendant 10 ans. Charles Blé Goudé a été reconnu coupable d'actes de torture, d'homicide volontaire et de viol. Il était surnommé le général de la rue pour sa capacité à mobiliser les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le mouvement des jeunes patriotes a souvent été qualifié de milice par ses détracteurs et par les ONG internationales. Entre 2010 et 2011, des violences post-électorales avaient fait plus de 3000 morts dans le pays. Les énormes incendies australiens se rapprochent de Melbourne, deuxième ville du pays. Près de 100 000 personnes sont toujours priées de fuir les banlieues. Hier, un pompier volontaire est mort en combattant le feu dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Il s'agit du troisième pompier volontaire tué depuis le mois de septembre, la 11e victime au total. Hier soir également, des milliers de personnes ont trouvé refuge sur des plages du sud-est de l'Australie pour échapper à ces violents incendies. À suivre maintenant ce mardi 31 décembre, les traditionnels vœux du président de la République française. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron a jusque-là été quasiment silencieux sur sa réforme des retraites. Il prendra donc la parole ce soir, très attendu évidemment, alors que la grève perdure, surtout dans les transports contre cette réforme. Ce mardi, la SNCF prévoit de faire circuler en moyenne la moitié de ses TGV et TER. En Île-de-France, à la RATP, le trafic sera encore largement perturbé aujourd'hui.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Il n'y a rien de plus difficile, de plus délicat que de faire l'histoire d'un événement qui vient à peine de se terminer. Dans le dernier temps du débat de cette année, nous allons pourtant tenter de faire l'histoire de 2019 avec un historien, une sociologue et un historien d'art et de l'image.
Le temps du débat, ce mardi à 18h20 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Profession économiste, c'est le titre de notre série cette semaine. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho.
Déconstruisons les idéologies avec Thomas Piketty. Dans les coulisses du Fonds monétaire international avec Olivier Blanchard. À la recherche du juste impôt avec Stéphanie Stancheva. La recherche française à la pointe avec notamment Pierre-Yves Joffard. Enfin, quelle économie pour 2020, on s'interrogera. Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bizarre, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel. C'est tous les jours à la radio de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Et on parle de l'actualité des films qui sortent au cinéma. Et comme on est en période de fête ou de pré-fête, je vous ai sélectionné aujourd'hui un vieux film français qui sort en version restaurée. Un des films du patrimoine français, le film de Marcel Carné, drôle de drame, réalisé en 1937. Notre invité ce matin est l'historien David Chantrain, qui a consacré tout un livre au cinéma de Marcel Carné. Et puis tout à l'heure, on aura au bout du fil Michel Simon du magazine Positif pour parler bien sûr de drôle de drame. Tous les mercredis, c'est l'actualité ciné, et aujourd'hui, cette émission a été préparée par Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, comme d'habitude, avec ce matin à la technique, lui, Bardinet.
Le réveil culturel. Cinéma.
«
Bonjour David Chantrane.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez consacré tout un livre à Marcel Carnet. Aujourd'hui sort en version restaurée au cinéma Drôle de drame, réalisé en 1937. Fait-il partie des films préférés, de vos films préférés de Marcel Carnet ?
Oui, et pour une simple et bonne raison, c'est que souvent on est associé Marcel Carnet à des films un peu sombres, un peu tristes, un peu noirs. On pense au Quai des Brumes, on pense aux Visiteurs du Soir, dans lesquels évidemment il y a un peu de sourire, mais très peu, alors que là, c'est un film drôle. Alors un film drôle quand même, avec certaines nuances, parce que c'est un film avec un humour britannique qui, à l'époque, en 1937, a pu dérouter, et notamment, c'était un des films qui a un peu heurté le public, mais ça a fait son succès.
Vous me demandez, cher cousin, où il demeure exactement. C'est bien simple, il demeure exactement dans les environs de Brighton, je crois.
Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre.
Qu'est-ce qu'il a?
Qui?
Votre couteau.
Comment?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Voilà, on connaît bien sûr cette fameuse réplique, mais on a un peu oublié le film Drôle de drame, David Chantrane. Est-ce que ce film résiste au temps?
Oui, il résiste au temps parce que il y a un rythme, il y a une pas uniquement que des dialogues, comme aussi savoureux soit-il.
Ouais, il y a aussi aphorismes et proverbes de Jacques Prévert.
Oui, voilà, c'est ça. Ça passe le temps évidemment parce que Prévert c'est éternel et que ces mots peuvent être prononcés encore aujourd'hui. Ils pouvaient l'être un siècle avant lui et peuvent l'être encore aujourd'hui. Mais ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a des rencontres, il y a des personnages, il y a des silhouettes aussi. On va en parler peut-être, mais bien sûr on a entendu tout de suite Michel Simon, Louis Jouvet, il y a Françoise Rosay, il y a Jean-Pierre Aumont qui joue le laitier, mais il y a aussi des silhouettes. Comme je disais, chez Carnet, ce sont peut-être eux, ces seconds rôles, c'est même ces troisièmes rôles, ceux qu'on ne voit pas, qu'on aperçoit à peine, qui vont donner tout le sel de ce film, et avec des répliques, avec des textes, avec des dialogues, et aussi des petits clins d'œil qui font tout l'intérêt de ce film. On pense à la petite Nadine Vogel, on pense même à Jean Marais, parce que Jean Marais aurait fait dans ce film, alors il a prétendu après que ça n'était pas le cas, parce qu'il voulait vraiment que ses débuts soient vraiment liés à Cocteau, mais ses débuts, il semblerait que ce soit avec Marcel Carnet, dans Drôle de drame, et il joue le rôle d'un ivrogne qui passe par là.
Oh, bah, va falloir revoir ce film, rien que pour essayer de le repérer. Alors, Drôle de drame, on peut résumer quand même l'histoire, c'est une comédie noire, vous venez de le dire, David Chantrane, où un écrivain de romans policiers est accusé d'avoir tué sa femme. Alors, ça commence quand son cousin, un évêque, trouve bizarre que sa femme soit absente. Bizarre, bizarre.
Oui, et ce romancier, en fait, il crée des personnages qui assassinent allègrement, mais lui-même est pris par son propre piège, puisque...
À force d'écrire,
c'est une adaptation d'un roman policier, The Lunatic at Large or His First Offense, de Storer Clouzon.
Et donc, Clouzon, ce sont des Français qui vont jouer le rôle.
Et ce sont des Français qui vont jouer. Oui, c'est ça. Et c'est le côté décalage de cet humour et de cette adaptation. C'est la deuxième adaptation du duo Carnet-Prévert au cinéma. Le premier, c'était Jenny un an plus tôt. Et en 23 jours seulement, en 3 semaines à peine, donc un peu plus de 3 semaines, ils vont réaliser ce film qui va, je vous dis, heurter un peu, qui va dérouter, mais qui reste un humour extraordinaire avec des répliques fabuleuses. Drôle de drame d'ailleurs est le premier film qui bénéficie de ce qu'on appelle un peu le teaser, j'aime pas trop ce mot-là, de teasing, hein, donc où on annonce uniquement avec 3 lettres DDD qu'un grand film va se présenter. En fait, DDD, c'est Drôle de drame.
Voilà, Drôle de drame, c'est le titre en France et le titre donc original, puisque ce film, après, a fait le tour du monde anglo-saxon sous le titre Bizarre, Bizarre.
Bizarre, Bizarre, exactement, ouais. Parce que la réplique a été tellement fameuse. Et d'ailleurs, il y a aussi quelques anecdotes liées à cette fameuse réplique, à ce duo Jouvet-Simon.
Qui se détestaient mutuellement.
Ils se détestaient copieusement. Et Marcel Carnet raconte dans ses souvenirs qu'ils détestaient si bien qu'ils ont même fait une sorte de jeu de pari fou, c'est-à-dire d'essayer, parce que comme ça se passe à table, cette scène du bizarre bizarre, où on voit que, il faut bien le dire, hein, d'un côté il y a l'écrivain Michel Simon, de l'autre il y a l'évêque de Bedford qui est joué par Louis Jouvet, qui est donc son cousin, et les deux tentent de déstabiliser l'autre. Et donc, comme ce sont des adversaires aussi à la ville, eh bien, ils ont bénéficié de ce face-à-face pour essayer de faire boire trop l'autre, de manière réelle cette fois-ci. Et donc, Carné raconte qu'à la fin, ils étaient tellement ivres l'un et l'autre que semble-t-il, Michel Simon se serait soulagé derrière les décors et que le soir même, ils jouaient tous les deux au théâtre dans deux pièces séparées. Mais que paraît-il, ils ont été parfaits et fabuleux.
Alors, en 1937, il est bon de rappeler que Michel Simon, c'est déjà une grosse vedette, c'est la bête du cinéma, mais pas Louis Jouvet. Hein. Louis Jouvet est connu au théâtre, mais pas encore au cinéma.
Il est vraiment, oui, c'est l'homme de théâtre. Jouvet n'a pas la carrière que Simon va avoir ou qu'il a déjà eue. Effectivement, on pense à Boudu sauvé des eaux, on a plein de films en tête. Il aura l'année suivante le très beau rôle, terrible et dramatique, du Quai des Brumes où il joue Zabel, qui est aussi un meurtrier, cette fois-ci beaucoup plus noir. Mais Jouvet, c'est effectivement l'homme de théâtre. Et Carné l'a rencontré, l'a croisé lorsqu'il était l'assistant de Feder pour la kermesse héroïque. Et donc les deux hommes se sont appréciés. Et avec l'équipe qui est formée, avec Jean-Louis Barrault, avec notamment Françoise Rosé, qui était la femme, cette fois-ci, à la ville de Jacques Feder, eh bien, Françoise Rosé prend sous son aile Carné, elle l'aide pour faire ses premiers films, Jenny et donc ce drôle de drame. Et dans l'équipe, eh bien, effectivement, va bénéficier de cette très belle réalisation, Louis Jouvet, qui va vraiment maintenant faire une grande carrière au cinéma.
Est-ce que Drôle de drame est un film particulier dans la filmographie de Marcel Carné, où il s'intègre totalement dans l'esprit de Carné?
Alors bizarrement, ce sont deux exceptions. Quand je dis deux exceptions, qui dénotent que Carné a un autre regard sur le cinéma, deux exceptions, c'est ce drôle de drame dans toute sa filmographie, et un autre qui s'appelle Du Mouron pour les petits oiseaux, qu'il faudra attendre les années 60, avec Dany Saval, avec Jean Richard, des gens plus proches de nous, et aussi Arletty, qui est vraiment la grande actrice que Carné voulait faire jouer pour ce film Du Mouron pour les petits oiseaux, mais qui ne pourra pas parce que, pour des raisons qu'on imagine, elle devient déjà aveugle à l'époque. Donc, Carné, c'est vraiment deux exceptions. Des films drôles, avec un humour un peu grinçant, mais ce sont des exceptions, alors que le reste, c'est comme je vous le dis, des films assez sombres, Les Portes de la Nuit, Trois Chambres à Manhattan, donc des films assez terribles où le poids social et la vie des comédiens est brinque-ballé, et donc les jeux des rôles sont dans cet esprit-là. Alors que là, drôle de drame, c'est tout à fait différent.
David, je suis en train de vous consacrer tout un livre à Marcel Carné, le môme du cinéma français, aux éditions Soteca. S'il fallait parler maintenant du réalisateur Marcel Carné, parce que là, on voit bien, hein, en revoyant drôle de drame, on est vraiment subjugué par l'image. Alors bien sûr, il a un grand chef opérateur, hein. Il va travailler avec cet Allemand Eugène
Schufton,
oui, qui avait travaillé avec les plus grands en Allemagne, c'est-à-dire Fritz Lang, qui va retrouver une fois qui va quitter l'Allemagne nazie à Hollywood les grands réalisateurs de l'Est, exemple Billy Wilder ou Fred Zinman. Mais il avait travaillé en France aussi beaucoup avec Marcel Carné, mais aussi avec Marcel Lherbier et Max Ophüls. Que dire du réalisateur Marcel Carné?
C'est un technicien. Il le dit lui-même d'ailleurs, et c'est vrai que c'est quand on voit les changements de caméra, ça passe en fait comme un artisan. Il était fils de menuisier, et dans sa façon d'appréhender le cinéma, il avait pris des cours au Centre des Arts et Métiers, et il le faisait de manière tout à fait artisanale, parce que pour lui c'était le beau métier, c'était le métier sûr, et il travaille vraiment la caméra ou la façon de diriger les acteurs de manière très sûre, très très directe. Et ça se ressent dans le film, parce que ce sont des films, si j'ose le dire, qui sont vrais. C'est-à-dire qu'on a
un vrai film.
Un vrai film, ça veut vraiment dire que les gens qui étaient à l'époque, alors ça nous paraît peut-être un peu éloigné aujourd'hui, mais les gens de l'époque se reconnaissaient dans les personnages qui étaient interprétés. Si on parle de Quai des Brumes, par exemple, avec Michel Morgan, toutes les jeunes filles de l'époque se sont identifiées dans cette jeune femme qui était un peu avec des idées un peu sombres, parce qu'on est à la veille de la grande Seconde Guerre mondiale. De la même manière avec Gabin, c'est pas que le beau gosse Gabin chez les films de Carné. Dans Drôle de drame, il avait apprécié le film de Carné. Eh bien, il va être engagé pour Le Quai des Brumes parce qu'il croit dans le talent de Marcel Carné et que c'est lui qui veut l'engager. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son talent. Et puis c'est un quatuor extraordinaire, les films de Carné. C'est Carné, Prévert, je vous l'ai dit, avec des dialogues extraordinaires. Et puis deux autres dont il faut parler, c'est bien entendu Troner pour les décors, Alexandre Troner, qui est un décor, un auteur de décors extraordinaire. Et surtout, Joseph Kosma. On a tous en tête Les Feuilles Mortes. C'est dans un film de Carnet.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Autrefois, l'homme ne savait pas lire. Ou bien, s'il savait lire, il lisait la Bible. De toute façon, il vivait en dehors du péché. Mais aujourd'hui, l'homme sait lire. Et que lit-il, l'homme? Que lisez-vous, pauvres malheureux, qui êtes venus aujourd'hui si nombreux pour m'entendre? Vous lisez les mauvais livres, écrits avec la mauvaise encre du mauvais esprit. Vous lisez des romans légers, des romans licencieux, des romans polissons, comme disent les Français, ou bien alors des romans policiers, crapuleux et sordides.
Et nous avons Michel Simon au bout du fil. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Alors, voilà, nous sommes donc avec David Chantrane pour parler donc de la sortie en version restaurée d'un de ses films les plus remarquables, en tout cas qui a marqué l'histoire du cinéma français, drôle de drame. Est-ce que vous l'avez revu, vous me l'avez dit, Michel Simon, est-ce que avec le recul, avec le temps, la magie opère toujours?
Oui, bien sûr, c'est un film très original, d'ailleurs, qui a été plutôt mal accueilli, très mal accueilli, qui a été un échec commercial pour ce premier partenariat avec Jacques Prévert et son premier
deuxième film.
Ouais. C'est certain. Mais Marcel Carné est un cas particulier. Alors, ce qui est vraiment scandaleux, c'est effectivement la façon dont la future Nouvelle Vague l'a assassiné, parce que c'est une œuvre extrêmement importante. Avec Grémillon et Renoir et Duvivier, ça fait partie des grands cinéastes des années 30. Mais c'est tout de même un cas très particulier, parce que si on examine sa filmographie, on se rend compte qu'il a fait 10 grands films, en tout cas sinon 10, en tout cas des 2 très grands films, avec Jacques Prévert. Et après la rupture avec Prévert, on peut sauver 1 ou 2 films, mais ensuite le déclin est évident. Et donc on peut se poser des questions. Renoir a travaillé avec Prévert, mais il a travaillé avec d'autres scénaristes. La même chose pour Duvivier, n'a jamais travaillé avec Prévert, mais il a travaillé avec des scénaristes différents. Mais ils ont maintenu tout de même un haut niveau de créativité. Je crois que Carnet a été un grand metteur en scène, et que évidemment, c'était aussi un chef d'orchestre. Il était entouré des plus grands artisans de son époque, Kosma pour la musique, Troner pour les décors, évidemment Prévert, avec lequel il travaillait constamment la main dans la main. En particulier, le choix des comédiens était souvent fait par Prévert, et Prévert était souvent sur le plateau. Mais ça a sûrement été dit par vous. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout de même un cas très particulier, parce que le déclin de Carnet n'a pas d'équivalent parmi les grands de cette époque, des années 30. Je pense à René Clair aussi, qui a continué à faire des films assez remarquables. Dans le cas de Carnet, on peut s'interroger effectivement sur le fait que Prévert a dû être son stimulus, qui a dû l'encourager. Et comme c'était un formidable technicien, un homme qui était nourri de cinéma, du cinéma allemand en particulier, expressionniste, il a réussi à créer cette série de films magistraux qui marquent l'histoire du cinéma.
David Chantral, peut-être une réaction au propos de Michel Simon?
Oui, c'est vrai qu'il le dit très justement, et bravo de le répéter, effectivement, c'est qu'on a prétendu que Carnet, c'était seulement effectivement le chef d'orchestre. Mais il y a une nuance à apporter, comme vous l'avez d'ailleurs dit, Monsieur Simon, c'est que dans les films qu'il faut récupérer dans la suite, on peut effectivement relever Les Tricheurs, qui est un très grand succès du cinéma, et qui mérite vraiment d'être ce succès, parce qu'il a trouvé les comédiens sans Prévert, parce qu'il a travaillé aussi avec d'autres scénaristes, je pense à Charles Pack, je pense évidemment par exemple à d'autres, mais rappelons-nous que au moment même de sa grande période, lorsque le duo n'est pas formé avec Prévert, mais qu'au contraire, il est obligé de faire, si l'on peut dire, parce que Prévert n'est pas à Paris, de faire alliance, de faire équipe avec Henri Janson pour bien sûr un des grands films qui est Hôtel du Nord, eh ben le film va avoir un grand succès. Donc, il n'y a pas que Prévert. Je ne sais pas que je veux prétendre forcément défendre Carnet, mais je pense qu'il y a aussi une période, il y a une façon de faire que peut-être Carnet n'a pas réussi peut-être effectivement à maintenir par la suite, mais il n'y a pas que le duo et que Carnet avait aussi un goût très sûr pour choisir les comédiens, parce qu'il le faisait, pour les diriger et aussi pour la caméra.
Alors, puisque vous parlez de comédiens et que aujourd'hui ressort en version restaurée Drôle de drame, il faut quand même rappeler que Jean-Louis Aumont et Jean-Louis Barrault sont dans ce film. Hein, ils sont dans,
Ah ouais, Jean-Pierre Aumont fait un petit rôle parce qu'il joue le laitier, mais c'est autour de justement de cette arrivée du laitier que tout va basculer. C'est vraiment quasiment du théâtre au cinéma, mais au-delà de ça, il y a quand même un fond dramatique et social, ce qu'on appelait le réalisme social ou le fantastique, il y a plusieurs appellations. En attendant, il y a un fond dans les films de Carnet, parce qu'on est dans une période qui va être de plus en plus sombre jusqu'en 39, et que Carnet les révèle de manière assez légère dans ce film-là, mais que d'une certaine manière, ce sont des films assez engagés.
Mais c'est
aussi pour ça que ça
marche. Mais Drôle de drame, c'est un film qu'on peut regarder.
Avec grand plaisir. Mais on se régale.
Mais oui, mais juste avec nos oreilles.
Exactement.
Mais si la magie de ce film, c'est quand même les aphorismes et les proverbes de Jacques Prévert.
Des aphorismes qui ont marqué effectivement et qui ont côté un peu, effectivement, un peu bizarre. C'est le cas de le dire, hein, puisque c'est le bizarre qui va rester. Mais quand on voit tous les dialogues qui apparaissent comme un homme d'église n'est jamais seul, les malheurs du monde sont toujours avec lui, ou à force d'attendre les événements, ils arrivent, ou quand le mari meurt, la femme pleure. Ce sont des aphorismes, ce sont des bons mots, mais qui révèlent autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que le côté gratuit de l'opération. Chez Prévert, c'est beaucoup plus profond, et ça a marqué les générations jusqu'à aujourd'hui.
Encore de son fin profil, lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance, elle était charmante et mince comme un fil, de grands yeux rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse, et je me disais pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence. Elle était pétante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent, et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère, et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sort cela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je me souviens. Malgré le temps passé, je revois devant mes yeux son air enfantin, ses gestes gracieux, et mon cœur bien vite la reconnaîtra, y en a pas deux comme ça.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Michel Simon chantait, bien entendu, et Michel Simon, avec MT à la fin, est toujours avec nous, Michel.
Bien sûr.
Voilà, on a parlé de Marcel Carnet, de Drôle de drame, qui ressort donc en version restaurée. Mais vous, dans Positif, vous mettez un autre grand metteur en scène à l'honneur, Visconti. Il y a même un article d'ailleurs sur Terrence Malick, mais à la limite, Terrence Malick, on peut comprendre, puisque son dernier film sort en ce moment. Mais pourquoi Visconti, alors?
Vous savez, Positif est une revue très libre et qui n'est pas totalement fixée sur l'actualité. ça nous fait plaisir, même s'il n'y a pas de rétrospective Visconti à la Cinémathèque française ou à l'Institut Lumière de Lyon, c'est pas une raison. On avait envie de revenir sur Visconti, un grand cinéaste italien, sur lequel, bien sûr, nous avons déjà beaucoup écrit, mais il fallait revisiter les classiques. Et c'est un peu la fierté de cette revue, de ne pas être totalement asservi par la dernière vague. Mais en même temps, il faut saluer tout de même la sortie d'Une vie cachée, l'extraordinaire film de Terrence Malick, qui divise la presse complètement. C'est-à-dire, on voit vraiment une presse qui, d'une part, dit cri au génie, à juste titre, et d'autre part, qui le démolit comme si c'était le plus vulgaire des metteurs en scène. Et
on a deviné que vous faisiez partie de la première catégorie, Michel Simon.
Absolument, puisque c'est la couverture. C'est-à-dire que Terrence Malick, comme tout, pas tous, mais comme un certain nombre de très grands cinéastes, je pense à Fellini, je pense à Buñuel, je pense à Kubrick, il clive, il crée des dissensions, il se fait attaquer violemment, et c'est tout à fait normal. Quand un artiste est tellement original et tellement à côté des goûts de son époque, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui résistent et qui n'aiment pas.
Pour être honnête, Michel Simon, beaucoup de ceux qui ont aimé les films de Terrence Malick ont été déçus par ce dernier opus.
Non, pas du tout. À Cannes, la majorité des journaux étaient très favorables au film. La presse internationale l'a porté au nu. Non, c'est un film qui a été très bien accueilli. Après, des films expérimentaux qui ont désarçonné, comme les films de Godard d'ailleurs. Godard aussi a eu le droit de ne plus avoir de public. Les derniers films de Godard n'ont pas de spectateurs, mais ils continuent à intéresser. Et nous sommes toujours intéressés par ce que fait Malick. Mais ce film aussi est un retour à la narration. C'est un film sublime. J'emploie le mot sublime, non pas comme on le dit toutes les semaines dans tous les journaux à propos de n'importe quoi. C'est sublime. Non, c'est le grand sublime du romantisme, c'est le grand sublime de la peinture de paysage, c'est le grand sublime de la vie spirituelle d'un personnage qui se dresse contre Hitler, même si ça va ruiner sa famille, mais il veut dire non. Et ce geste du non, qui est si peu existant dans notre époque, où tant de gens crient avec les loups et se refusent à contester la position dominante, eh bien je pense que c'est ça la beauté du film, qui est un hymne à la nature, qui est un hymne au couple. Il y a une façon d'exalter la famille qui est absolument sublime, avec des images qui se mêlent avec des commentaires de lettres échangées entre les maris et la femme, et cet homme qui est un peu le Christ face à l'antéchrist qu'était Adolf Hitler. Et je pense que ce film, il aura des partisans farouches, il aura des détracteurs, mais c'est un film qui mérite d'être vu.
Merci beaucoup, Michel Simon. Et pour terminer, autour de Marcel Carnet, David Chantran, puisque je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage consacré au film, à la carrière de Marcel Carnet, le môme du cinéma français aux éditions Soteca, les trois bonnes raisons pour aller revoir au cinéma, sur grand écran du coup, drôle de drame.
Trois raisons, elles sont simples. C'est drôle, grâce au dialogue avec Prévert. C'est aussi des face-à-face extraordinaires, vraiment intéressants, passionnants, des comédiens. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, parce que le cinéma de Marcel Carnet, il faut le découvrir, le redécouvrir, et que ça reste notre plus grand, et je pèse mes mots, notre plus grand cinéaste français.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture et avec le Réveil Culturel. On se retrouve demain à la même heure ou quand vous voulez, en passant bien sûr par l'écoute en ligne ou le podcast. Bonne matinée, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Van Rett.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et l'on commence par cette annonce. Carlos Ghosn a fui le Japon pour aller au Liban. L'ancien PDG de Renault-Nissan est arrivé hier à Beyrouth. Un développement inattendu pour le magnat déchu de l'automobile, jusque-là assigné à résidence au Japon où il attendait son procès. Selon un journal libanais, Carlos Ghosn est arrivé dans un avion en provenance de Turquie hier. On n'en sait pas plus pour le moment. Nous irons à Beyrouth lors du journal de 7h tout à l'heure pour plus de précisions grâce à notre correspondant. L'Irak est en colère contre les États-Unis après les raids menés par Washington contre des positions du Hezbollah, un groupe iranien. Au moins 25 personnes sont mortes sur ce territoire irakien lors de ces représailles. Bagdad menace de revoir ses relations avec Washington. Et notez qu'hier aussi, Moscou a jugé inacceptable les échanges de tirs en Irak. Donald Trump adresse ses condoléances aux victimes d'une fusillade dimanche dans une église au Texas. Deux fidèles sont morts dans cette attaque avant que le tireur ne soit abattu par d'autres fidèles armés dans l'église. Le président américain en profite donc pour louer les lois pro-armes en vigueur en ce moment au Texas. Et lui aussi se félicite de l'utilisation d'armes à feu, de leur détention en tout cas. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a annoncé l'augmentation de près de 50% des enregistrements d'armes à feu, et cela auprès de la police depuis son arrivée au pouvoir au Brésil. L'actualité en France en ce 31 décembre 2019, c'est notamment l'attente forte avant les traditionnels vœux du président de la République. Emmanuel Macron prononcera son discours à 20h ce soir pendant un quart d'heure environ. Analyse ensuite de ses vœux dans la foulée jusqu'à 20h30 sur France Culture ce soir avec nos invités pour l'occasion. Et évidemment, les mots d'Emmanuel Macron seront scrutés, écoutés en pleine contestation contre la réforme des retraites. En ce 27e jour de grève, le trafic reste d'ailleurs perturbé dans les transports à la RATP et à la SNCF. Hier soir, la CGT a par ailleurs appelé au blocage national de toutes les raffineries à partir du 7 janvier et jusqu'au 10 janvier, c'est-à-dire de mardi à vendredi prochain. Avant l'arrivée de pluie en fin de journée sur le littoral atlantique, le temps sera globalement ensoleillé ce mardi 31 décembre. Quelques bancs de brouillard et de nuages persisteront sur le centre de la France. Pour les températures, comptez toujours moins 1 à Strasbourg ce matin, 0 à Paris et à Lyon, 2 degrés à Lille, 4 à Bordeaux, 9 degrés à Perpignan ce matin. Et vous l'avez sans doute remarqué, écoutez, ce point d'actualité est raccourci ce mardi matin en raison d'un appel à la grève d'une organisation syndicale de Radio France. Elle proteste toujours contre le plan de suppression de 299 postes prévu par la direction de Radio France. Un plan d'économie également à hauteur de 60 millions d'euros d'ici 2022. Nous nous retrouvons donc à 6h40 pour les enjeux internationaux avec Julie Gacon.
En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Be when I'm with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. Yeah, guns close, doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. We representing peeps, got them players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Sending peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we deal. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boy.
Vous écoutez France Culture.
Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Les vrais amours sont muets. Tu aurais dû t'en douter. Tu aurais dû la boucler et dis. Sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait. Je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Effectivement, il est 6h40 sur France Culture, place aux gens, aux enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Ce matin, Julie, vous vous penchez avec votre invité sur une alliance des villes d'Europe centrale qui se disent libres contre leur gouvernement ultra-conservateur.
Ou populiste, oui, c'est une alliance qui a été scellée en décembre par les maires des quatre capitales des pays du groupe dit de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Ils sont donc maires de Varsovie, de Budapest, de Prague et de Bratislava, et ils se disent à la tête de ville libre donc contre l'ultra-conservateur Viktor Orban qui gouverne la Hongrie à nouveau depuis 2010, contre le parti Droit et Justice à la tête de la Pologne depuis 2015, ou encore contre des dirigeants tchèques et slovaques accusés de corruption ou de détournement de fonds européens. Cette union a été permise après que Budapest, trois jours plus tôt, a chassé le maire affilié au Fidesz et très proche de Viktor Orban, et a élu à sa place un opposant, président d'un petit parti de centre-gauche. Alors la résistance venue des villes peut-elle vraiment mettre à mal ces gouvernements qui depuis une dizaine d'années ne rencontrait quasiment que des succès électoraux? Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et vous êtes cofondateur du blog Eurasia Prospective. Alors vous êtes venu, Florent Parmentier, avec un tableau manuscrit pour comparer les parcours politiques de ces quatre maires, de ces quatre capitales. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Est-ce que leurs familles politiques sont assez semblables?
Non, effectivement, la première chose qui frappe, c'est qu'il y a une cohérence générationnelle entre ces quatre maires qui ont signé le pacte des villes libres. Ils sont tous nés dans les années 70, à l'exception de Zdeněk Hrib de Prague, qui est né en 81, mais sinon ils sont tous nés entre 72 et 80. Il y a une cohérence générationnelle. Pour autant, leurs fonds de commerce électoraux ne sont pas exactement les mêmes. Ils sont en opposition par rapport à un contexte interne, plus qu'unis finalement par une idéologie commune des pactes de ces villes libres. Il y a des rapprochements, des tendances, effectivement, et les gouvernements qu'ils combattent, ou qu'ils entendent combattre, ont des particularités en partant d'un certain nombre, mais ne sont pas exactement identiques. À Budapest, on a effectivement un écologiste plutôt de tendance de centre-gauche. À Varsovie, et on a une alternance. À Varsovie, Monsieur Trzaskowski appartient à la plateforme civique, qui correspond grosso modo à une forme de centre-droit libéral, qui est en opposition avec le PiS, donc le parti au pouvoir actuellement
en Pologne.
À Prague, c'est un représentant du parti pirate qui a été élu. Et puis à Bratislava, on a quelqu'un qui est issu plutôt du militantisme local, sans réelles affiliations partisanes. Donc on a là à la fois des membres de partis identifiés comme opposition et solides opposition comme la plateforme civique, et puis des partis plus originaux.
Alors faisons un zoom par exemple pour l'instant sur la Hongrie et Budapest. Donc c'est le président d'un petit parti de centre-gauche qui l'a emporté le 13 décembre contre le Fidesz, le parti de Viktor Orban, qui était à la tête de la capitale hongroise depuis 2010. Est-ce qu'il y a eu un retournement de l'opinion publique à Budapest contre le Fidesz, ou est-ce simplement que la population a changé dans une capitale? Les changements, notamment sociologiques, peuvent se faire très vite. Qu'est-ce qu'on peut en déduire?
On a plutôt affaire à une opposition qui a su s'unir, ce qui est la première fois depuis un certain nombre d'années. La particularité effectivement de Viktor Orban ayant été d'avoir pu accumuler des succès électoraux depuis un certain nombre d'années maintenant, sans avoir finalement d'opposition structurée en face de lui, ou en tout cas avec des oppositions mais qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord.
Donc c'est quoi? C'est une sorte de front républicain comme on dirait en France?
Un front républicain a particulier malgré tout, puisque les écologistes et le centre-gauche a pu bénéficier en quelque sorte du soutien au moins tacite du Jobbik, qui est un parti plus à droite,
extrême droite,
plus conservateur, antisémite, qui est en quelque sorte plus... Donc ce qui a vraiment pesé, c'est finalement une forme de référendum anti-Orban et de lutte contre le Fidesz.
Mais c'est pas avec ça qu'on va bâtir un programme de gouvernement alternatif pour la Hongrie. Alors si cette opposition est si hétéroclite, on peut gagner une ville, mais pas bâtir un programme commun.
Effectivement, et ce qu'il faut observer, c'est que donc Ivan Tarlos, qui était le précédent maire, a effectivement été resté 10 ans au pouvoir entre 2010 et 2019. Ce qu'il faut observer aussi, c'est qu'un certain nombre de villes hongroises ont basculé. Donc c'est pas seulement le cas finalement dans ces municipales de Budapest qui est intéressant, c'est le recul du Fidesz dans un certain nombre de villes, qu'on peut attribuer à plusieurs facteurs, probablement deux choses essentielles. D'abord, la corde anti-migratoire sur laquelle le Fidesz a joué à fort de hurler au loup et de ne pas voir l'arrivée massive d'un multiculturalisme qui est honni chez Viktor Orban, cette corde-là a tendance un peu à s'épuiser.
Dans les capitales, en plus, on est plutôt sur des villes un peu plus, comme on dit, multiculturelles.
Notamment dans les villes, et notamment dans une ville comme Budapest, qui, dans certains quartiers, le 7e arrondissement notamment, accueille aujourd'hui un certain nombre d'expatriés. Donc on a effectivement, les expatriés européens votent aux élections municipales. Donc on a un électorat qui devient particulier. Il faut rappeler que Budapest, c'est 1,7 million d'habitants, mais c'est 20% de la population hongroise. Donc on a quelque chose là qui est important. Donc il y a ça, il y a également probablement, et c'est paradoxal à première vue, un certain nombre de succès économiques. Il faut voir que sur le temps long, les 30 dernières années, le rattrapage de l'Est et de l'Ouest du continent n'a jamais été aussi important. Mais dans certains quartiers de Budapest, le marché locatif a tendance à être de plus en plus cher. Et plus vous êtes cher dans votre marché locatif, en réalité, plus un certain nombre de personnes se sentent un peu relativement lésées par cette croissance qui fonctionne bien pour certains, mais qui fonctionne moins pour d'autres. Et donc, il y a probablement aussi une sorte de frustration relative de l'électorat à ce niveau-là.
Alors, Florent Parmentier, le nouveau maire de Budapest, dit que les villes peuvent être le pont pour régler la crise de la démocratie. Concrètement, quelles sont les prérogatives que ces capitales ont, en tout cas restant sur Budapest, pour contrecarrer certains projets du gouvernement hongrois? On a bien vu par exemple que Viktor Orban ne cessait de leur retirer des prérogatives ou des ressources comme celles qui contribuent à financer les théâtres par exemple. Qu'est-ce qu'elles ont comme pouvoir entre les mains pour, comme elles disent, régler la crise de la démocratie?
Alors il y a, je pense, dans l'affirmation des quatre maires, donc le pacte des villes libres, une première idée qui est d'une fonction tribunicienne, en quelque sorte, comme disait Georges Lavaux dans un autre contexte, le politologue. Fonction tribunicienne qui consiste en quelque sorte à pouvoir dire à l'opinion publique et aussi aux alliés internationaux, cesser de ne voir finalement que dans le groupe de Visegrad, qui est un bloc homogène, qui est là pour qui est là contre finalement une politique voulue, ouverte, multiculturelle, généreuse, voulue par les Français et les Allemands. L'idée de ces quatre maires est d'avant tout d'avoir un pouvoir peut-être de discussion, de prendre une place spécifique, celle de la tribune, qui est là pour occuper ce point. Avec un certain nombre de valeurs, liberté, état de droit, dignité, démocratie, justice sociale, etc. Donc il y a un ministère de la parole. Et puis, c'est aussi pour ça, en fait, effectivement, si la question est-ce que ces maires ont les moyens de leurs ambitions, probablement pas surtout. En revanche, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est précisément de solliciter leurs alliés internationaux pour dire, vous êtes en train de financer des gens au gouvernement défie ouvertement un certain nombre d'institutions européennes dans les discours. Il faut se souvenir par exemple du cas de la Hongrie où peu de temps avant les élections l'an passé, en 2018, finalement il y avait une forme de dénigrement de Jean-Claude Juncker, de l'Union européenne sur la question migratoire. Là, on a l'idée, effectivement, de se dire que cessez donc de financer des personnes qui vous embêtent. Donnez-nous accès aux fonds structurels. Donnez-nous accès aux fonds structurels, précisément parce que les collectivités territoriales sont au cœur du fondement de la consolidation démocratique.
Voilà, ils voudraient que l'Europe leur verse davantage de fonds européens à elles, directement les villes. Est-ce que c'est possible que 5% par exemple des fonds européens dans le prochain budget soient réservés aux grandes villes?
Ça demande un certain nombre de réformes institutionnelles au niveau de l'Union européenne, en tout cas de réformes de classement. Pour l'instant, ce n'est pas possible et c'est précisément l'objet de la revendication. C'est une demande aujourd'hui qui peut être relayée, qui n'était pas relayée jusqu'à présent par les gouvernements, mais qui la peut l'être au nom d'un principe qui serait celui de subsidiarité.
Ils ont quand même un argument à faire valoir. Par exemple, en République tchèque, le Premier ministre Andrej Babiš est mis en cause dans une affaire de fraude aux fonds européens. Il s'en serait servi notamment pour construire un grand complexe hôtelier et agricole, je crois, près de Prague, il y a un peu plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, les maires de ces capitales disent « Regardez, on est face à des gouvernements qui détournent l'argent et il faut nous les verser directement. » Or, pour l'instant, la tendance des pays européens comme la France ou l'Allemagne, c'est plutôt de dire qu'ils vont sanctionner les pays qui ne respectent pas les valeurs européennes, comme ils disent. Donc la tendance est plutôt à priver de ressources plutôt qu'à les allouer spécifiquement en distinguant les échelons.
C'est là que l'initiative du pacte des livres est intéressant. Et que ça ouvre une alternative politique à se dire est-ce que finalement on continue de financer des régimes qui nous soutiennent moins ou est-ce que finalement voilà on traite avec des personnes qui ont envie de ces fonds européens et qui peuvent en faire tout à fait bon usage.
Vous disiez tout à l'heure que ces villes vous laissent battre sur des questions de valeurs. Quelles sont les cartes que peuvent ou que veulent jouer les représentants de l'opposition? Sur quel sujet de société en particulier? Si on prend la Pologne, par exemple, le maire de Varsovie, qu'est-ce qu'il revendique comme valeur ou comme mesure pour contrecarrer les plans du PiS au pouvoir?
Ce que peuvent apporter les nouveaux maires et particulièrement donc le maire de Varsovie, c'est tout simplement il y a un première idée simple, la possibilité, en tout cas les manifestants n'étaient pas empêchés de manifester loin de là, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de manifestations à Varsovie, mais disons que il peut y avoir un encouragement plus fort des autorités locales à des manifestations pro-européennes qui existent et qui sont très fortes. Le point d'ailleurs intéressant est de constater que derrière des victoires, là aussi, de partis loi, droit et justice, les principales villes polonaises sont toutes dans l'opposition. Et donc là aussi, au-delà de Varsovie, l'image en fait de la Pologne comme étant unanimement en train de tomber dans une problématique d'état de droit et de manquement à l'état de droit et n'est pas exagéré, il faut y être vigilant, mais en tout cas, il existe des contre-pouvoirs, au PiS.
Mais par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand Varsovie dit que, enfin, le maire de Varsovie dit qu'il peut agir sur la séparation de l'Église et de l'État ou qu'il le souhaite? Est-ce qu'au niveau municipal, il peut vraiment agir?
Il faut voir deux choses derrière. Il y a effectivement l'action locale sur des cas très précis, mais qui n'ont pas d'implication, en tout cas, qui dépendent du national. Mais il y a aussi la volonté de consolider autour de ces maires des alliances politiques qui seront à même d'amener l'alternance. Alors même que il y a probablement deux manières d'interpréter les résultats politiques des élections en Pologne. Soit on considère effectivement que il y a des conflits de valeurs entre, pour dire les choses très simplement, des urbains modernistes européens et des ruraux plus ancrés dans une société traditionnelle, c'est une manière de voir les choses. L'autre manière, et c'est pas non plus exclusif l'un de l'autre, c'est aussi de constater que dans ces espaces ruraux, il y a moins de services publics. Et donc c'est le défaillance des services publics en fait qui pose question. Vous avez un peu ce même rapport en France. On voit bien en France, c'est l'objet d'un des éléments de constatation qu'on a pu faire auprès des collectivités territoriales en France. Il suffit de regarder le prochain ouvrage apparaître de Martial Foucault sur les maires au bord de la crise de nerfs. Il est frappant d'observer que les votes extrêmes en France sont très souvent dans des villes qui sont éloignées en réalité des services publics à l'égard. Et on a le même phénomène en fait qu'on retrouve en Europe centrale, c'est-à-dire moins vous avez accès à des services publics. Donc l'idée d'un maire comme Varsovie, c'est d'être un peu un porte-étendard, à la fois un porte-étendard à l'externe, montrer une autre image de la Pologne en quelque sorte, et puis aussi commencer à réfléchir en interne à des formes d'alliance entre les territoires et comment faire pour arrimer ces espaces gagnants de la mondialisation, comme peut l'être Varsovie, avec des territoires qui eux sont tout simplement moins, enfin plus en déshérence, non pas en déshérence, mais en tout cas en difficulté sur le plan des services publics.
Alors si ces forces d'opposition n'ont pas réussi pour l'instant à séduire les électeurs des régions rurales, ils ont donc, vous le disiez, remporté plusieurs villes, fait tomber les partis au gouvernement qui étaient à la tête de plusieurs villes, en l'occurrence de Hongrie ou de Pologne, ça veut quand même dire, Florent Parmentier, que ces forces d'opposition le sont restées, forces d'opposition, malgré la mise sous tutelle des médias privés, dont on parle beaucoup de ces gouvernements.
Ce qu'il faut observer, effectivement, là aussi, il y a une situation qui est peut-être diverse. Il y a un point d'attention particulier, qui doit être le cas de la Hongrie. La Hongrie, au classement vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, Reporters sans frontières, mais la Pologne au 87e rang mondial en matière de liberté de la presse. C'est l'état le plus difficile dans ce cadre-là, avec une tentation, une tendance à voir un certain nombre de médias se faire racheter et donc une forme de réduction du pluralisme par tout simplement des racines économiques et une inquiétude sur un certain nombre de médias d'opposition qui finissent par fermer la porte. La Pologne, là-dessus, est classée en 59e position mondiale. Ce que disent les pouvoirs polonais, c'est cette volonté à un moment de repoloniser les médias.
Avec repoloniser.
Avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Le cas de la République tchèque et de la Slovaquie sont un peu différents là aussi. Respectivement 40e pour la République tchèque et 35e pour la Slovaquie. La Slovaquie a eu un scandale énorme en 2018, qui a été le cas Jan Kuciak, donc ce journaliste assassiné. Mais cette affaire est aujourd'hui suivie. Il faut se souvenir aussi que Miloš Zeman, le président tchèque, était venu dans une conférence de presse en 2017 avec une fausse Kalachnikov pour dire, voilà, ça c'est pour les journalistes. Ouais. Et on a donc des atteintes, en tout cas, à la fonction de journaliste qui sont importantes et qui sont notables.
Florent Parmentier, cette cérémonie de signature de cette alliance entre les capitales des pays du groupe dit de Visegrad, elle a eu lieu à l'Université d'Europe centrale à Budapest. C'est une institution qui a été fondée par George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise que Viktor Orban a de cesse de vilipender. Quels liens ont-ils avec lui ou avec cette institution? C'est vrai que c'est un drôle de signal de se placer en quelque sorte sous l'égide d'un milliardaire qui sert régulièrement de lien entre l'Europe de l'Est et les États-Unis. Est-ce que c'était voulu?
Derrière George Soros, il y a la Central European University. Et la Central European University a été un message en quelque sorte politique qui a été fait à l'époque, qui était de placer en Europe centrale une institution visible, qui s'occupe notamment d'étudiants en master, en doctorat, et donc une grande institution de recherche dans des pays centro-européens qui n'en étaient pas dépourvus. Il y avait des systèmes éducatifs supérieurs, etc., mais en tout cas avec des moyens économiques qui étaient supérieurs à ceux des universités centro-européennes. Du coup, ce qu'il y a derrière la Central European University, c'est finalement une forme de... Vous savez, c'est un peu comme ces clubs qui hésitent entre jouer la Ligue des Champions et jouer le Championnat de France. Là, on a eu des gens qui se sont dit, bah tiens, on va jouer le championnat, la Ligue des Champions. Donc on a un peu ce parallèle, on peut dire, footballistique pour l'expliquer. Mais disons qu'il y a ça derrière. Cette institution a été mise en cause par Viktor Orban. Donc on peut voir quelque chose comme une forme de pied de nez à Viktor Orban pour dire... vous avez essayé de vous débarrasser de cette institution qui aujourd'hui d'ailleurs se partage entre Vienne et entre Budapest.
Parce que les étudiants fuient la...
Pas parce que les étudiants fuient, mais parce que en raison d'une loi qui a été adoptée un temps par Viktor Orban qui consistait à mettre de côté, ou littéralement à ne pas permettre à des institutions universitaires étrangères. C'est une loi sur mesure faite pour contre la Central European University. C'est comme ça qu'elle a été interprétée en tout cas. Très clairement, et qu'elle peut être interprétée. Et donc, l'idée, voilà, tout simplement, est de prendre le contre-pied. La Central European University est encore pour partie à Budapest, mais en réalité, elle est déjà largement transférée en partie à Vienne, ce qui est un très beau cadeau pour Vienne, mais certainement moins pour Budapest.
Donc l'idée, c'était de se mettre sous l'égide de cette université plus que de celle de George Soros en lui-même. Oui. C'était plus ça, c'était un pied de nez à Viktor Orban.
C'était un pied de nez à Viktor Orban pour précisément cette raison-là.
Merci beaucoup Florent Parmentier d'avoir été avec nous ce matin. Alors je cite votre dernier ouvrage paru cette année aux éditions du Non-Lieu. Il est coécrit avec Josette Durieux et ça s'appelle La Moldavie à la croisée des mondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis très bonne dernière journée de l'année.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce numéro d'hiver, un grand dossier sur la fin du monde. Suffit-il d'imaginer le pire pour l'empêcher d'advenir? L'effondrement est-il forcément synonyme de fin du monde? Pourquoi notre cerveau n'est-il pas écolo? En bonus, 25 essais à lire pour sauver la planète. Découvrez aussi quelques contre-vérités sur l'histoire de l'islam, le mystère Léonard de Vinci et la romancière Toni Morrison à voix nue. Papier, actuellement en kiosque et en librairie.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
Un micro qui vous prend par la main et vous emmène sur le terrain, un grand thème en 4 épisodes autonomes, complémentaires et addictifs, des sons qui fabriquent des images parce que, comme disait Orson Welles, à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma.
Cette semaine, l'automobile et nous. Conduire ou ne pas conduire? Carcan ou liberté? Machine à rêve ou fléau? Comment agit-elle sur nous? Comment s'en passer? L'automobile et nous, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
6h59 sur France Culture, les petits matins laissent place au matin tout court. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Julie Gacon.
Et donc c'est vous qui êtes aux manettes des matins encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui et demain, effectivement. Nous recevrons Fariba Ashtroudi dans la première partie de cette émission, intellectuelle iranienne, écrivaine. Elle viendra faire avec nous le bilan d'une année 2019 en Iran, marquée non seulement par les célébrations du 40e anniversaire de la révolution islamique, mais aussi par de nombreux mouvements de contestation sur des revendications économiques et politiques, mouvements très durement réprimés, pas plus tard encore qu'au mois de novembre. Dans cette émission également, la situation en Syrie, notamment à Idleb, qui sera l'occasion également de faire un point sur la décennie noire et sur la guerre en Syrie depuis 2011. Avant cela, nous ferons un point sur l'état de l'emploi en France. Ce sera la question du jour, juste après le journal. Voilà, il est 7h sur France Culture. Merci d'être avec nous.